Hélène Philippe pour le journal. Bonsoir Hélène.
Bonsoir à tous. C'est le grand titre ce soir. C'est donc la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, où elle arrive à l'instant même pour la passation de pouvoir avec Jean Castex, et où vous vous trouvez, Simon Le Baron?
Oui, l'ancien Premier ministre désormais et la nouvelle sont en train de poser... Pardonnez-moi pour les photographes sur le perron de l'Élysée, sous les applaudissements des invités qui sont là. Jean Castex qui a fait une bise chaleureuse à sa successeur. Ils vont s'entretenir pendant un quart d'heure à peu près dans l'ancien bureau de l'un et le nouveau bureau de l'autre.
Simon Le Baron, que l'on va retrouver dans quelques instants. Deuxième femme première ministre de la 5e République, Elisabeth Borne, technicienne ministre depuis 5 ans des transports, de la transition écologique, puis du travail. On détaillera son profil, ses atouts, ses handicaps et les défis qui l'attendent. La passation de pouvoir donc avec Jean Castex, on vous l'a fait vivre, on attend vos questions. Aussi Fabienne pour le téléphone sonne juste après ce journal.
Absolument, à partir de 19h20 au 01 45 24 7000, on continue avec des invités, vos questions, Yael Gauze et d'autres encore.
L'actualité, c'est encore les frappes russes qui privent les civils d'eau potable en Ukraine. Reportage à Mykolaïv. Ce revers pour le ministère de l'Intérieur, la dissolution du groupe antifasciste de Lyon suspendue par le Conseil d'État. Et puis le Festival de Cannes, on se prépare parce que cette fois, ça commence demain. Plus de trois semaines après le second tour de la présidentielle, voici donc le premier acte fort du second mandat d'Emmanuel Macron. Elisabeth Borne nommée à Matignon, où elle va donc remplacer Jean Castex, premier ministre post-Covid, resté en poste 681 jours. Et on prend tout de suite la direction de Matignon, où la passation de pouvoir est en train de se faire, puisque Elisabeth Borne est arrivée et s'entretient en ce moment avec Jean Castex, Simon Le Baron.
Oui, un entretien qui, selon le programme officiel, doit durer un quart d'heure dans le bureau du Premier ministre, ici à Matignon. Il y a trois minutes, la voiture d'Elisabeth Borne est arrivée ici dans la cour de l'hôtel de Matignon. Elle en est descendue, elle a été accueillie par Jean Castex, qui a descendu le perron pour lui faire une bise, qui a été une bise chaleureuse. Tous deux s'entendent bien, des grands sourires. Ils ont posé en haut du perron pour les photographes, encadrés par les membres de la garde républicaine, sur le tapis rouge avec les drapeaux français et européens. Les applaudissements aussi des invités. Ils sont, je dirais, 200 ici dans la cour de l'hôtel de Matignon, des membres de tous les services qui travaillent ici pour le Premier ministre, les membres du cabinet, les anciens membres du cabinet de Jean Castex aussi, et puis quelques parlementaires dont certains, n'ont pas douté, espèrent faire partie du futur gouvernement d'Elisabeth Borne. Ils vont donc s'entretenir avant de revenir ici sur le perron pour d'abord le discours de Jean Castex. Le Premier ministre y a mis la dernière main après son entretien avec le Président de la République à l'Élysée tout à l'heure. Il s'est isolé dans son bureau pour corriger et apporter les dernières retouches à son discours. Et puis ensuite, c'est Elisabeth Borne, la nouvelle Première Ministre, qui prendra la parole. Vous l'avez dit, Hélène, Jean Castex a passé plus de 680 jours ici à Matignon, 351 déplacements, 22 jours depuis l'élection du Président de la République. Il aurait aimé que ce soit un peu plus court, Jean Castex, mais c'est Emmanuel Macron qui fait le calendrier. Et vous le savez, donc passation de pouvoir en cours. Les deux Premiers Ministres sont encore en train de s'entretenir, ça doit durer encore environ un quart d'heure.
Simon Le Baron en direct de Matignon avec Selim Guerribi, une femme à Matignon. C'est une première depuis plus de 30 ans, depuis Edith Cresson, première ministre de François Mitterrand entre 91 et 92. Voici ce que lui inspire ce soir cette nomination.
Je pense que c'est un très bon choix. Le président de la République a dû se rendre compte qu'il était temps, effectivement, qu'une autre femme soit nommée Premier ministre. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ait attendu aussi longtemps et surtout qu'on en parle comme de quelque chose d'extraordinaire. Madame Borne n'a pas besoin de conseils, elle est suffisamment compétente et expérimentée, et en plus elle est courageuse, ce qui est une vertu tout à fait nécessaire dans cette fonction.
La vertu du courage, vantée par Edith Cresson. Yael Gauze, chef du service politique, vous êtes avec nous. Trois ministères en cinq ans, finalement Matignon. Elisabeth Borne, est-ce qu'elle coche toutes les cases?
En tout cas, les cases que voulait remplir Emmanuel Macron. Mmh. C'est assez étonnant parce que l'hypothèse de départ qui apparaissait comme acquise fin avril s'est retrouvé brouillé par d'autres pistes démenties. Pendant trois semaines, Emmanuel Macron a laissé vivre le doute pour revenir à la case départ parce qu'elle remplissait les conditions qu'il voulait pour son CV club. Elle est dans le club très restreint, On a un retour actuellement dans le casque, excusez-moi, un club très restreint des ministres en poste depuis 2017. C'est rare, elle fait partie de ceux qui sont restés en poste. Et puis elle coche évidemment toutes les cases que voulait Emmanuel Macron, c'est-à-dire un pédigré de gauche de gouvernement. Mmh. Elle est membre de Territoire de Progrès, ce club de ministres issus du Parti Socialiste. Elle a servi sous Jack Lang, sous Lionel Jospin, sous Ségolène Royal. L'écologie, la priorité, elle a été ministre en charge de cela pendant un an entre l'été 2019 et l'été 2020. Et puis sa double casquette public-privé, à la fois les rouages de l'État comme préfète et puis les grandes entreprises, réforme de la SNCF, direction de la RATP. La maîtrise des dossiers, c'est ce que va évidemment rechercher Emmanuel Macron pour le quinquennat qui s'ouvre. Loyauté, dit-on à l'Élysée, compétence et aussi discrétion. Là, par contre, c'est peut-être le chantier qui l'attend pour Elisabeth Borne, en étant à la fois Premier ministre et chef de la campagne des législatives, désormais, pour les 30 jours qui restent avant le premier tour, le 12 juin, comme Michel Rocard en 1988, comme Jean-Marc Ayrault en 2012. Elle aura la double casquette, elle devra gagner aussi sa circonscription à Livarot, près de Caen, dans le Calvados. Donc, double enjeu pour elle.
Et est-ce qu'on peut interpréter cette nomination, comme vous le disiez, comme un geste aux électeurs de gauche? Elle qui, vous le rappeliez, a collaboré avec plusieurs figures socialistes, Jack Lang, Lionel Jospin, oui, Ségolène Royal, Bertrand Delanoë. Eh bien, voilà ce qu'en pense le patron socialiste Olivier Faure.
C'est la continuité absolue. Voilà quelqu'un qui a démantelé sa République ferroviaire, qui a été ensuite ministre de l'Environnement, qui a été condamné pour inaction climatique, et puis qui a été ministre du Travail, à l'origine de cette réforme qui a permis de spolier les chômeurs, les précaires, notamment les plus jeunes, et les femmes intermittentes de l'emploi. Voilà ce qu'est le bilan de Mme Borne. Et donc, tout ça n'est pas très réjouissant en réalité. Il y aura beaucoup de communication du fait que c'est la première femme depuis Edith Cresson qui... Mais enfin, le problème n'est pas simplement le genre de celui qui occupe le poste à Matignon. Le vrai sujet, c'est de savoir quelle est la politique qui est conduite. Et malheureusement, la saison 2 d'Emmanuel Macron va ressembler furieusement à la saison 1.
Olivier Faure avec Antoine Gignot, qui fait référence à des dossiers sociaux compliqués qu'Elisabeth Borne a eu à gérer. Bonsoir Fabien Cazot.
Bonsoir.
Et en premier lieu, peut-être la réforme de l'assurance chômage.
Oui, absolument, la réforme de l'assurance chômage qui avait entraîné une contestation très forte dans les rangs syndicaux, puisqu'il s'agissait notamment d'un durcissement des conditions d'accès à l'indemnisation. Mais c'est aussi elle, Elisabeth Borne, qui a orchestré depuis 2 ans, rue de Grenelle, l'adaptation du monde du travail à la crise sanitaire, les protocoles sanitaires, la généralisation du télétravail, la mise en place puis le débranchement progressif du quoi qu'il en coûte en lien avec Bercy. Alors il y a effectivement la réforme de l'assurance chômage et de notre côté, elle a aussi su bousculer dans les rangs patronaux les branches professionnelles qui commençaient leur grille de salaire trop bas. Sur le front de l'emploi, les presque 2 ans qu'elle a passé au ministère du Travail ont vu la tendance à la décrue du chômage se confirmer. Mmh. Auparavant, elle avait été en charge des transports, un secteur qu'elle connaît bien en tant qu'ancienne présidente de la RATP. Elle avait notamment eu à gérer la difficile réforme du statut des cheminots qui avait déclenché, on s'en souvient, une longue grève perlée de près de 3 mois en 2018.
Rodez donc à la négociation avec les partenaires sociaux, elle les connaît bien. Ça va lui servir pour l'un des dossiers que le président veut remettre sur le métier, la réforme des retraites?
Oui, il lui reviendra la délicate mission de piloter cette négociation, promesse de campagne d'Emmanuel Macron, notamment sur l'âge légal de départ, 64 ou 65 ans, la prise en compte de critères de pénibilité ou de carrière longue. Il lui reviendra également dans les toutes prochaines semaines de mettre sur les rails le prochain collectif budgétaire avec des mesures très attendues, c'est peu de le dire, de soutien au pouvoir d'achat, une feuille de route économique et sociale qui demandera bien sûr à être confirmée lors des prochaines élections législatives.
Fabien Cazot, et je me tourne à présent vers vous, Sandy Dauphin, bonsoir.
Bonsoir.
Spécialiste des questions d'environnement à France Inter. Parce que le premier défi de la nouvelle première ministre, c'est le défi écologique, chargé de la planification écologique. Est-ce qu'Elisabeth Borne a les armes suffisantes?
En tout cas, elle connaît parfaitement les enjeux climatiques et les leviers pour décarboner l'économie, autrement dit, se passer des énergies fossiles, principales responsables du réchauffement de la planète, dans les transports, l'industrie ou encore le chauffage et l'agriculture. 2014, Elisabeth Borne travaille au cabinet cabinet de la ministre de l'Environnement de l'époque, Ségolène Royal. 2017, elle est ministre des Transports, rattachée à Nicolas Hulot. Puis en juillet 2020, elle remplace au pied levé le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, obligé de démissionner, poste qu'elle n'occupera que pendant un an. À son actif, la loi sur les mobilités destinée à verdir les transports, la loi sur le climat, issue de la Convention citoyenne. Elle a aussi été chargée, en tant que ministre de l'écologie, de faire appliquer la stratégie nationale bas carbone, la SNBC. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas étonnant. C'est pourtant la feuille de route que la France s'est fixée pour parvenir à la neutralité carbone en 2050. Jusqu'à présent, le ministère de l'Environnement bataillait pour motiver les autres ministères à appliquer cette stratégie. Aujourd'hui, Elisabeth Borne, première ministre en charge de la planification écologique, a le pouvoir d'en faire la priorité de son gouvernement.
Voilà pour ce défi résumé par Sandy Dauphin. Et avec qui pour l'épauler, pour l'entourer, Yael Gauz? Est-ce qu'on a une idée désormais de la composition du futur gouvernement?
Pas du tout. Non. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, l'Élysée gère donc Matignon. Ouais. C'est en cours. Ce qu'on peut imaginer, c'est que si Emmanuel Macron choisit la continuité pour Matignon, c'est qu'il y aura de forts changements et beaucoup s'y attendent. Angoisse durable chez les sortants, de gros changements dans les ministères.
Étape par étape, pour l'instant, Elisabeth Borne est arrivée à Matignon il y a quelques minutes. Où vous vous trouvez, Simon Le Baron, et où la nouvelle première ministre parle à l'ancien Jean Castex? Ils sont en train de s'entretenir tous les deux.
Dans le bureau du Premier ministre, ici à Matignon, effectivement, ça ne devrait plus durer très longtemps, puisque selon le programme officiel, cet entretien tête-à-tête doit durer un quart d'heure. C'est avant tout formel, même si officiellement c'est là que le Premier ministre remet à celle qui lui succède les dossiers, les notes confidentielles. C'est avant tout formel pour montrer que tout se passe bien et dans une entente cordiale. Effectivement, on a vu Jean Castex, il y a quelques minutes, accueillir Elisabeth Borne très chaleureusement. Ils vont redescendre ici sur le perron pour faire leur discours dans quelques instants. En attendant, on voit les membres, les futurs ex-membres de cabinet ici à Matignon, pour beaucoup s'embrasser, se prendre par la main. Il y a de l'émotion parce que beaucoup ne vont pas rester, certains ne seront pas conservés, d'autres n'ont pas envie tout simplement de travailler avec Elisabeth Borne. Quant à Jean Castex, il ne retournera pas, nous disent ses proches, dès ce soir dans ses Pyrénées-Orientales, puisqu'il a prévu de passer la soirée entre amis quelque part dans Paris.
Et on écoutera tout à l'heure les discours, évidemment, de Jean Castex, puis d'Elisabeth Borne dans cette émission spéciale qui va se poursuivre, Fabienne, avec les questions des auditeurs, notamment 01 45 24 7000.
Et vous avez tout dit, absolument, à 19h12. En attendant l'actualité, Hélène nous ramène encore sur en Ukraine ce soir.
Où les Ukrainiens affirment être en train de reprendre le contrôle de la frontière dans la région de Kharkiv. Des combats à l'est et dans le sud, les frappes russes privent parfois les civils d'eau potable. C'est le cas à Mykolaïv, près de 500 000 habitants en temps normal et plus d'eau potable depuis un mois. Les Russes en empêche toute réparation, alors il faut se débrouiller. C'est le reportage de nos envoyés spéciaux Arthur Gerbeau et Agathe Mahué.
Le geste est devenu machinal pour Nicolas. Chaque jour, depuis des semaines, ce retraité vient remplir sur ce parking deux gros bidons d'eau potable à l'arrière d'un camion citerne.
On prend ce dont on a besoin pour préparer les repas, pas plus. On en laisse pour les autres.
Plus d'eau potable chez lui, au robinet, juste un filet jaunâtre. Les Russes ont bombardé le système d'approvisionnement en eau entre Kherson et Mykolaïv le mois dernier. Ils empêchent depuis toute réparation sur le territoire qu'ils occupent. Dmitro Pletenchuk explique qu'il a fallu trouver une solution en urgence.
Pour l'instant, on repompe l'eau de la rivière. On l'a saignée au maximum et c'est ça qui coule à nouveau depuis quelques jours au robinet des appartements. Mais on ne peut pas encore la boire. On espère pouvoir réalimenter tout le monde en eau potable dans un mois.
Avant ce camion, on devait aller à la rivière, dit Olga. Alors merci à ces gens d'Odessa qui nous apportent de l'eau. Elle remplit 5 bidons d'un coup.
C'est quand même une chance que j'habite en face.
Espérons que tout cela ne dure pas, disent ses habitants résilients. Avant la guerre, Mykolaïv était assez ironiquement l'une des rares villes d'Ukraine dotée d'un système de purification suffisamment bon pour que l'on puisse y boire sans problème l'eau du robinet.
Reportage Agathe Mahué et Arthur Gerbeau. Après bientôt 3 mois de guerre, le groupe Renault Acculé décide finalement de céder ses actifs à l'État russe. Première nationalisation d'emploi d'ampleur. Le constructeur français est leader dans le pays avec la marque Lada. Il se laisse tout de même la possibilité de racheter ses parts dans les 6 ans. Et puis McDonald's passe aussi au stade supérieur et vend toutes ses activités, ses restaurants dans le pays. La Suède, après la Finlande, s'est officiellement déclarée candidate à une adhésion à l'OTAN aujourd'hui. Et comme pour y répondre, cette image à Moscou de Vladimir Poutine qui réunit ses alliés pour dire que ce n'est pas une menace en soi, mais qu'il réagirait à tout déploiement militaire.
C'est une hausse inquiétante. En 5 ans, le nombre de plaintes pour crimes et délits envers les personnes LGBT+, a doublé.
2170 crimes et délits contre les lesbiennes, gays, bi et trans enregistrés l'année dernière par la police et la gendarmerie. Bonsoir Yann Gallic.
Bonsoir.
Police et gendarmerie qui ne sont pas exempts de reproches en la matière.
En effet, dans la police, la gendarmerie ou chez les pompiers, les propos et les comportements homophobes sont encore trop répandus, estime Johan Caviro. Ce gendarme de réserve âgé de 37 ans travaille aujourd'hui comme ingénieur à la préfecture de police de Paris. Il lui a fallu du temps avant d'avouer son homosexualité à ses collègues. Johan a attendu une quinzaine d'années car c'est un sujet qui reste délicat dans ce milieu professionnel encore très masculin.
La police, la gendarmerie sont des métiers avec le côté machiste, un peu viriliste. C'est le vocabulaire qui banalisait finalement les propos homophobes. Typiquement les termes PD, enculé, où on n'est pas des tapettes. Je les ai régulièrement entendus, puis pas plus tard qu'il y a 2 ans, à l'époque on checkait encore finalement pour dire bonjour en période Covid. Et ben deux collègues, un collègue voulait pas te checker, l'autre il fait allez, fais pas ta tafiole, et dans mon bureau.
Désormais, Johan Caviro préside l'association FLAG et qui lutte contre l'homophobie et la transphobie au sein des ministères de l'Intérieur et de la Justice.
Il y en a qui se cachent complètement. J'ai même des collègues qui me parlent uniquement sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils n'osent même pas pousser la porte de mon bureau par peur d'être reconnu ou d'être identifié comme quelqu'un venant de parler et qui serait potentiellement LGBT. Donc il y a encore des freins, y compris pour dégrader. Hein. Et quand on est LGBT, ben, de facto, on va tendance à se taire et à se cacher.
Alors pour recenser les actes homophobes, l'association FLAG a lancé en 2020 une application mobile qui devrait être bientôt adoptée au sein même du ministère de l'Intérieur. Sur cette plateforme dédiée, les signalements ont augmenté de 27% l'an passé.
Un reportage signé Yann Gallic. Les juges du Conseil d'État ont finalement décidé de suspendre la dissolution du groupe antifasciste Lyon et Environ, dit la GAL. Le ministère de l'Intérieur avait décidé la dissolution du mouvement à la fin du mois de mars, lui reprochant d'avoir appelé à des rassemblement où il y a eu de nombreux débordements, des expéditions punitives contre des militants d'extrême droite notamment, éléments insuffisants aux yeux du Conseil d'État. Emmanuel Leclerc.
Les 3 juges du Conseil d'État en charge de ce dossier ont estimé que les éléments avancés par le ministre de l'Intérieur ne permettent pas de démontrer que la GAL a incité à commettre des actions violentes et troubler gravement l'ordre public. La dissolution n'était donc pas justifiée au regard du code de la sécurité intérieure, ce qui fait dire à Agnès Bouquin, l'une des avocates lyonnaises de la GAL, que c'est là un vrai rappel à l'ordre pour Gérald Darmanin, sa direction juridique, les policiers lyonnais et le service de renseignement territorial qui ont constitué un dossier de 30 pages contre le groupuscule d'extrême gauche.
On a le droit, dans le débat démocratique et en France, d'avoir une parole critique à l'encontre de la police. Ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont relayé, ce qu'ils ont tweeté, ça relève purement de la liberté d'expression. C'est essentiel que le Conseil d'État, qui est la plus haute juridiction, puisse le rappeler de manière aussi claire. Les faits qui étaient reprochés à la GAL étaient finalement artificiellement nombreux. On n'avait rien de très précis, on avait des amalgames, on avait des contre-vérités.
Les avocats de la GAL vont maintenant déposer un recours pour obtenir l'annulation purement et simplement du décret de dissolution de l'organisation antifasciste lyonnaise.
Et pour l'instant, le ministère de l'Intérieur n'a pas réagi. En sport, la déception de Gaël Monfils, numéro 1 français, il renonce à participer à Roland-Garros en raison d'une gêne au talon droit qui l'empêche de se déplacer sur le court. Cette fois, c'est la bonne, ni annulée, ni décalée. Le Festival de Cannes retrouve son joli mois de mai après 2 années bousculées par le Covid. Paillettes et cinéma pointu à gogo pendant 10 jours à partir de demain. Et on est dans ces dernières heures où tout le monde s'agite pour être prêt, Delphine Devenu.
Sur le fronton du Palais des Festivals, l'immense affiche bleu azur, Jim Carrey, le Truman Show. À ses pieds, les 24 marches du palais sont encore blanches. Le tapis rouge ne sera déployé que demain matin pour rester impeccable. On s'active dehors, on s'active dedans aussi, du sous-sol au 5e étage.
Fatigué un peu, mais pas fébrile.
Christophe Arnoux, le directeur des opérations du palais.
Les salles de projection sont construites depuis quelques temps déjà. Elles sont en réglage, réglage audio, réglage vidéo, réglage lumière aussi. Il y a des répétitions qui se font pour la soirée d'ouverture. Et puis, déblayage, nettoyage, on range tout ce qui dépasse et on accueille tout le monde dès demain.
Son téléphone le harcèle, pas de répit.
Oui, Karine.
Et c'est toute la Croisette qui fait festival. Au balcon des appartements et suites louées, les sociétés de production affichent en grand leur logo. En bas, les plages pour le côté paillettes, mais avant, un peu de sueur, l'enjeu est de taille. Lindsay Sosnowski dirige la plage Palais sous le Marriott.
Il y a beaucoup de montage parce qu'on a des grosses soirées cette année. C'est quelque chose qui radie un peu partout dans le monde. Il y a beaucoup de visibilité. Ça donne beaucoup d'images, il y a beaucoup de touristes qui viennent sur 11 jours, donc c'est... voilà, intense, long, c'est un petit marathon.
Mais Cannes, en mai, c'est avant tout la fête des cinéphiles, comme Claire.
Là, ce que j'ai en main, c'est le programme de la quinzaine.
4 billets en poche.
Le programme est effectivement très alléchant et très intéressant.
Dernier coup de collier, dernière impatience, dans 24 heures, tout commence.
Et voilà, le 75e Festival de Cannes qui démarre donc demain.
Et oui, c'est une vraie bonne nouvelle. Merci beaucoup, Hélène Philly. La suite, bien sûr, de l'édition spéciale après la nomination d'Elisabeth Borne, première ministre du premier gouvernement Emmanuel Macron 2, c'est juste après ça.
La météo avec Air France. Cet été, envolez-vous en toute sérénité vers plus de 1000 destinations. S'envoler en toute élégance. Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Élodie Calac, la chaleur s'accentue demain.
Oui, alors le matin, 10 à 15 degrés, jusqu'à 17 à Paris, Bordeaux ou Toulouse. Et puis l'après-midi, ça montera partout. Il fera chaud, voire très chaud. 22 degrés à Brest, à Nice également, 28 à Lille et à Strasbourg, 30 degrés à Paris, Nantes et Nîmes, 31 au Mans, à Bourges, à Limoges ou à Lyon, 32 pour Agen et on ira jusqu'à 33 à Montauban et à Montélimar.
Et donc, beaucoup de soleil.
Oui, à peine quelques petits bémols ici ou là. Alors, quelques grisailles vite effacées sur le littoral méditerranéen le matin. Quelques passages nuageux sans conséquence près des frontières du Nord, juste le matin. Sur la Bretagne, là aussi, quelques nuages un petit peu plus nombreux d'ailleurs. L'après-midi sur la pointe bretonne avec une averse possible et ça deviendra instable entre l'Anjou, la Touraine, la Normandie avec un risque d'orage pour l'après-midi. La chaleur, elle montera encore d'un cran mercredi. Elle fera 10 à 18 degrés le matin, souvent 30 à 34 degrés l'après-midi. Un petit peu moins tout de même vers la Manche, vers la Côte d'Azur et vers la Corse. Et puis tout ça avec beaucoup de soleil et un risque d'orage sur l'ouest dans l'après-midi et la soirée.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup.